Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
15h48 sur France Culture, le mardi à cette heure-ci, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillé. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Le mardi, vous vous intéressez au croisement entre les enjeux numériques et littéraires. Cette semaine, c'est au livre audio que vous prêtez singulièrement l'oreille.
Oui, et c'est un grand sujet qui mériterait plusieurs chroniques d'ailleurs, mais aujourd'hui je me suis intéressée à une seule catégorie de livres audio qui est très spécifique et qui est conçue à destination des personnes qui n'ont pas accès aux livres imprimés. Ça représente beaucoup de monde et ça concerne aussi bien des adultes que des enfants. Les raisons sont diverses, ça peut être dû à des problèmes de vue, à des troubles dys et à toutes sortes de difficultés cognitives et motrices. Et pour toutes ces personnes, il existe justement un certain type de livre audio qui leur permet d'avoir quand même accès à la lecture.
Et pour en savoir plus, vous êtes rapproché d'une association en particulier.
Oui, et même de l'une des plus vieilles associations qui existent à destination des audiolecteurs et des audiolectrices en situation de handicap, c'est l'association des donneurs de voix des bibliothèques sonores. Elle a été imaginée en 1972 à Lille par un ophtalmo, Charles-Paul Van Broek. C'était quelqu'un qui était passionné de littérature, qui adorait en discuter avec ses patients, et un jour, sur son temps libre, il a imaginé un système de cassettes où des bénévoles, ces fameux donneurs et donneuses de voix, s'enregistraient lire pour que ceux qui ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes aient quand même accès au texte. Au départ, c'était juste à Lille et seulement grâce à quelques cassettes qui circulaient. Mais ce système a très bien fonctionné et grâce au soutien du Lions Club de la ville et d'un large réseau de bénévoles, des bibliothèques sonores ont vu le jour un peu partout en France.
Bon, et on imagine que rendu en 2024, depuis les années 70, les cassettes ont été remplacées et que ça fonctionne maintenant plutôt par téléchargement. Et c'est là la dimension numérique de cette chronique.
Oui, forcément, le prêt dématérialisé a été un vrai tournant dans la vie de l'association puisque les utilisateurs et les utilisatrices de la bibliothèque sonore peuvent maintenant directement télécharger les documents qu'ils souhaitent lire. Ça a permis aussi de mutualiser le travail des donneurs de voix dans toute la France. Mais la question du support reste intéressante quand même. D'abord parce qu'on rappelle que l'accès à l'ordinateur et à Internet n'est pas une évidence et que donc beaucoup de personnes ont encore besoin de supports de lecture physique. Aujourd'hui, c'est essentiellement des CD. Il y en a à peu près 350 000 disponibles à l'emprunt, mais aussi parce que le passage de l'analogique au numérique, de la cassette au CD, a permis de mettre en place la norme DESI, qui est une norme internationale et qui a été justement inventée pour faciliter la lecture.
Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la norme DESI et qu'est-ce qu'elle permet ?
Elle garantit aux utilisateurs que le texte va pouvoir s'adapter à leurs besoins. Ça permet par exemple de pouvoir varier la vitesse de lecture ou la tonalité de la voix. Il y a des fréquences qui sont plus audibles que d'autres. Mmh. Et puis il y a aussi un système de sommaire vocal et de découpage du livre en pistes pour pouvoir se déplacer avec facilité à l'intérieur des documents. Et tous ces paramètres ne sont pas toujours présents dans les audiolivres plus classiques. Je pense par exemple à ceux qu'on trouve sur des plateformes de téléchargement comme Audible par exemple. Finalement, l'enjeu derrière tout ce dispositif, c'est que toutes les personnes qui ne peuvent pas lire de livres imprimés puissent accéder aux mêmes connaissances et aux mêmes informations sans délai ni coût supplémentaire. Les bibliothèques sonores s'engagent donc à proposer gratuitement des versions audio des livres, mais aussi des périodiques et de la presse locale, des journaux qui sont extrêmement consultés. Les abonnés de la bibliothèque peuvent aussi réclamer à ce que tel ou tel livre ou magazine soit disponible à l'écoute quand ce n'est pas encore le cas. Et pour ce qui est des droits d'auteur, parce qu'à chaque fois c'est la question, l'association est reconnue d'utilité publique, elle n'est pas concernée par cette question. Tous les textes peuvent être transmis par les donneurs et les donneuses de voix sans condition, et même s'il existe des versions des textes en audiolivre déjà commercialisées.
Alors justement, comment ça se passe pour celles et ceux qui font la lecture ?
Pour être donneur ou donneuse de voix, il faut surtout du temps. Les bibliothèques sonores forment leurs bénévoles à lire, mais aussi à l'utilisation d'Audacity, un logiciel libre de montage son. Les enregistrements sont faits directement chez les bénévoles et ils sont contrôlés pour que les normes de qualité soient respectées. Il y a même un prix des audiolecteurs et des audiolectrices qui est décerné chaque année en septembre. Il récompense le meilleur premier ou second roman d'un auteur ou d'une autrice. Et ce sont les membres des bibliothèques sonores qui votent.
Et alors, si on veut se renseigner, franchement, ça me donne envie pour être donneur ou donneuse de voix. Si on veut accéder au catalogue, comment on fait, Lou ?
Soit on se rend directement dans la bibliothèque sonore la plus proche de chez soi, il y en a vraiment partout, soit on consulte le site internet bibliothèquesonore.org.
Merci beaucoup, Lou. On peut vous réécouter lecture numérique sur franceculture.fr.